When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En dehors des entraînements, toi, collectif, que tu faisais tous les jours, tu bossais un peu solo sur tes qualités, sur tes forces, avec un coach ou tout seul?
Tu veux savoir si je faisais de la muscu un peu de mon côté, des trucs comme ça. Ouais, on commençait, c'était les prémices. C'est vrai qu'on avait parfois des entraînements collectifs, puis après, on avait un complément. Donc le préparateur athlétique de l'époque nous disait, écoute, Edouard, ce serait bien que tu fasses des petits pas, enfin des trucs un peu particuliers pour avoir un peu plus de tonicité. Mais c'était en marge, quoi. C'était pas encore la grande généralité.
Mais le mec, il disait ça, il se basait sur ton profil ou il disait au hasard, fais des pas chassés. Enfin, il y avait une étude derrière.
Alors, j'ose espérer qu'il faisait en fonction de parce qu'il me connaissait vraiment, mais c'était plus sur du ressenti, je crois. Tu vois, sur une expérience, mais pas trop sur personnalité, profil. Tu veux faire référence aux préférences motrices?
Ouais, c'est ça. Avec une nouvelle mouvance dans le foot.
Écoute, il y en a beaucoup qui en parlent, c'est vrai, des préférences motrices, c'est un terme très à la mode, mais il y en a très peu qui savent comment on pourrait les utiliser. Okay. Et notamment, moi j'ai un très bon pote, Nicolas Bourada, qui va nous expliquer, qui peut nous expliquer comment dans le football on pourrait les utiliser et comment elles pourraient être vraiment utiles.
Bah écoute, on serait bien d'aller lui parler.
Allons-y, mais attention, hein, il va te faire ton profil et tu vas comprendre.
Ah, tu crois que je vais avoir des surprises et je vais en apprendre sur moi-même?
Ah bah j'espère bien.
Eh bah écoute, c'est parti. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast Hors Terrain de Sous-Foot, présenté par Edouard Cissé et Mathieu-Lille Palette.
Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Alternative Football avec mon compère, monsieur Edouard Cissé. Salut Edouard.
Salut.
Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicolas Bourada, avec qui on va parler de football, figurez-vous, pour changer, mais sous un angle un petit peu différent.
Bonjour Nico.
Salut.
Alors Nicolas, écoute, on a une tradition ici, on va pas te demander tout de suite de te présenter, on va plutôt te découvrir à travers nos questions, mais on va surtout lancer le sujet avec la question qui nous intéresse aujourd'hui, test de personnalité, entraînement personnalisé. Le football est-il toujours un sport collectif?
Je dirais que c'est une somme d'individualité au service du collectif.
Bon bah merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Alternative football.
De plus en plus, en fait, on doit individualiser les entraînements et la manière de coacher, de driver les joueurs. Ils sont tous différents, donc il faudra forcément avoir une approche individuelle. Et le coach aura en charge de comprendre ces différences individuelles et de les amener, en fait, dans un schéma collectif optimal.
Donc, comment toi, tu peux, aider et contribuer à ce que, justement, déceler un petit peu le côté unique du joueur?
Déjà, le premier temps, c'est de matérialiser les différences et de comprendre que, enfin, d'identifier, en fait, les préférences de chaque joueur. On va parler, en fait, de préférences motrices et de préférences cognitives. Et donc, une fois que j'ai identifié cette distinction, c'est de dire comment je vais pouvoir exploiter le meilleur de ce joueur-là. Et donc, une fois que je vais ce meilleur, toutes ces informations assez précises, je vais combiner mon 11 de départ, par exemple, en fonction des préférences de chacun. Donc, j'ai un travail en tant que coach qui est un petit peu plus poussé pour amener une performance collective plus importante.
Donc, quand tu es coach, dans le cadre de la construction de ton équipe, est-ce que l'idée, c'est de s'adapter à chaque joueur ou c'est de faire en sorte d'avoir des joueurs qui s'adaptent à un collectif préfixé?
Ça, c'est la question qui revient souvent. Pour ma part, il faut que le coach, même s'il a sa stratégie, sa tactique, sa vision du jeu, il doit quand même adapter, en fait, certains schémas et certaines façons de penser en fonction de la préférence du joueur. En fait, sinon, ça peut être compliqué. Alors, il peut instaurer et imposer aux joueurs qu'ils fassent comme lui, il décide. C'est juste qu'il pourra pas tout le temps avoir 100% de la capacité du joueur. Il aura peut-être 30%, 50% de l'investissement du joueur. Et des fois, ça ne suffira pas au niveau.
C'est de l'à peu près, en fin de compte. C'est un petit peu au pifomètre. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, avec les préférences motrices et cognitives, tu fais des bilans. Tu peux nous expliquer comment tu fais pour déceler, pour expliquer un petit peu et pour dresser le profil d'un joueur ?
Alors, juste avant d'expliquer, en fait, ce qu'on dit par rapport à la question qui était posée avant, c'est qu'on dit il y a la méthode de tel entraîneur. La méthode, je pourrais en citer plein, mais la question, c'est est-ce que le joueur peut rentrer dans ce cadre-là ? Et donc, il peut y avoir un turnover de beaucoup de joueurs. Donc, au niveau du recrutement, on en parlera aussi, ça peut avoir des incidences, mais je pense qu'il y a des entraîneurs comme Zidane qui, même s'ils ont leur vision du jeu, s'adapte parfaitement en fait au potentiel du joueur et comment utiliser le maximum de son plein potentiel en fait dans mon schéma. Et donc lui, il est très ouvert à dire bah je vais avoir un jeu peut-être dans cette année avec ces joueurs-là qui va être ciblé là-dessus, mais l'année prochaine, j'ai d'autres joueurs donc il va falloir que j'adapte mon schéma en fonction des forces en présence. Et là effectivement, c'est l'adaptation 100%. Il y en a d'autres, alors de moins en moins maintenant, parce que les mentalités évoluent, mais avant, c'était, il y a la méthode de tel entraîneur, le joueur doit rentrer dans ce cadre-là.
Donc en pratique, c'est quoi ? C'est-à-dire, comment Zidane approche-t-il les choses différemment ?
Je pense en fait, c'est qu'il n'y a pas de méthode. En fait, dans la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il est pas, il vient pas au réel en disant, la méthode Zidane, c'est ça. D'ailleurs, on ne parle pas de méthode Zidane. Parce qu'il va avoir, lui, il va accueillir le joueur, et en fonction de son regard, de son ressenti, il va amener des choses différentes, peut-être un discours différent. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à Gareth Bale de la même manière qu'on va parler à Eden Hazard. Donc là où lui, il individualise, alors il ne met pas les mots qu'on met nous aujourd'hui, mais c'est son ressenti, comme on parlait de Didier Deschamps tout à l'heure.
C'est les mêmes, ouais.
Et là, il va avoir un petit peu un management différent, individualisé en fonction du joueur, sur son ressenti, mais voilà, il ne va pas renfermer en disant au Real de Madrid, ça se passe comme ça et tu dois jouer de telle et telle manière. Il a quand même cette flexibilité. Après, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne suis pas au Real non plus, mais il a quand même, ça se voit d'extérieur qu'il arrive à remanier. Au bout d'un certain temps, l'équipe joue différemment parce qu'il a amené quelque chose qui n'est pas une méthode, qui est pour moi un management individuel des joueurs.
Oui, parce que quand il reprend l'équipe après Benitez, il reprend l'équipe et il ne change rien de particulier. C'est juste il regonfle les mecs, il les remet dans des bonnes dispositions psychologiques, mentales, et puis après, ça huile. Tout est huilé, quoi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une méthode. C'est du ressenti. Et puis après, il y a aussi ce qui dégage aussi, après, voilà, sur Zidane.
Oui, ça aussi. Ouais.
Il est quand même serein, le Pépito. Mais par contre, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Donc, comment tu fais pour déceler, pour dresser le profil du joueur ?
Alors, pour déceler le profil du joueur, la particularité, c'est qu'on ne le pose pas de questions. C'est qu'en fait, on a un diagnostic moteur ou un testing moteur qui identifie son schéma préférentiel. C'est la même notion que de dire à un joueur, est-ce que tu es droitier ou gaucher ? Voilà, ça, c'est la préférence de base que tout le monde connaît dans le football. Et n'importe quel joueur est capable de vous dire, je préfère tel pied. Maintenant, si vous dites...
Sauf Ousmane Dembélé.
En fait, Ousmane Dembélé, s'il y a 0-0 à la 89e minute de la finale de Ligue des Champions, il frappera forcément avec son pied fort. Ouais. Donc, ça sera sa préférence.
Pour le coup, ça me fait penser à sa fameuse interview à Dembélé, ce que tu dis, où on lui demande s'il est droitier ou gaucher. Il dit non, je suis plutôt droitier. Et le journaliste poursuit, il dit ouais, mais vous avez tiré le pénalty du pied gauche. Il dit ouais. Parce que je préfère tirer les pénalties du pied gauche. Mais du coup, c'est ça. C'est-à-dire que il n'est même pas conscient qu'il a une préférence motrice qui fait que même s'il a un pied qui est potentiellement plus fort pour faire des passes, quand il s'agit de tirer un pénalty et donc on est sur un moment important, il va frapper du pied gauche.
C'est ça. En fait, c'est une prise de conscience. Et on a tous des préférences différentes. C'est-à-dire que certaines personnes vont dire « Moi, je suis droitier, j'écris de la main droite, mais je vais faire un lancer de balle main gauche. » Et ils ne savent pas pourquoi. C'est une préférence individuelle. Et donc, c'est d'aller, par un testing moteur, aller identifier l'ensemble des préférences. Donc, droitier-gauté, c'en est une. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut juste aller lister l'ensemble de ses préférences, que le joueur en prenne conscience, et d'aller après travailler sur tous les schémas de jeu, technique, autour de ses préférences, parce qu'on va aller travailler sur le point fort du joueur. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais ça veut dire que tu ne travailles pas les points faibles. » Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne va pas passer beaucoup de temps dessus et être trop exigeant sur les points faibles. D'accord. En revanche, on va dire, mais ça, c'est ta force, on va s'appuyer sur ça, en fait, chez toi, en fait, dans le match, pendant le match, pour gagner. Donc, forcément, le travail d'une certaine manière pour retrouver un maximum de fois pendant le jeu son schéma préférentiel.
Est-ce qu'il y a un profil type, entre guillemets, des joueurs de haut niveau?
Alors, il y a 16 profils moteurs. Sur les 16 profils moteurs, j'avoue qu'après beaucoup d'années d'observation, on en retrouve majoritairement 6-7. Surtout, en fait, sur une caractéristique d'œil moteur, on verra qu'il y a beaucoup plus de footballeurs qui sont œil moteur gauche. Donc, déjà, on en enlève 8. Donc oui, il y a 6-7 profils phares. Après, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être footballeurs de haut niveau. C'est juste qu'il faut
plus difficile.
Ça sera...
Non, je déconne.
Non, il faut juste qu'ils aient un entraînement adapté et voilà, une spécificité. Mais je reprends le cadre de la Fédé. En fait, on a un système en France qui est dans un apprentissage assez carré, avec des normes et un cadre. Et donc, c'est la même question qu'en introduction. C'est, est-ce que le joueur du centre de formation, est-ce qu'il est fait pour rentrer dans ce cadre-là ou pas fait pour rentrer dans ce cadre-là? Pourquoi un joueur qui va être moyen dans un club va se révéler un an plus tard dans un autre club? Peut-être parce qu'il a eu l'écoute d'un coach qui s'est complètement adapté à son schéma personnel. Mm-hmm. Et donc, bah, il a explosé.
Mais, simplement, je me permets du coup une question pour toi, Edouard. Est-ce que tu as senti, toi, chez tes coachs, des gens qui arrivaient à intégrer cette notion individuelle dans leur si ce n'est sur la partie motrice, parce que je comprends que c'est plutôt nouveau, on en parlera après peut-être du cycle et depuis quand c'est mis en place, mais sur la partie motivationnelle, est-ce que tu avais des coachs qui étaient capables de faire une causerie à tout le monde, mais qui allaient voir Edouard Cissé ou qui allaient voir Pedro Miguel Pauleta séparément après pour dire, lui, je vais lui dire ça. Voilà, je vais parler individuellement à ce mec-là parce qu'il a besoin d'autre chose que mon discours global. Est-ce que t'as vu des coachs qui bossaient comme ça?
J'en ai vu plusieurs, mais il y en a un qui est très très fort. C'est pour ça qu'à chaque fois, on le critique, mais c'est Didier Deschamps.
D'accord.
Didier Deschamps, il arrive à faire une causerie pour tous les joueurs. Il arrive à contextualiser le match. Et puis après, il arrive à toucher quand tu te prépares. Il arrive à venir te voir. Donc, moi, il savait quand venir me voir. Il y en a d'autres, il sait quand les déranger. Ça peut être avant le match, ça peut être pendant le massage. Il est très bon. D'accord. Il est ressenti. Et il ressent très bien les choses. Et il sait comment s'adresser. Il sait comment piquer les joueurs. Il sait qui peut piquer. Il sait qui doit caresser dans le sens du poil. Et tu vois, tout ce que Nico dit, bah, Didier, il a intégré ça. Mais pourtant, je pense que je sais même pas si les préférences motrices, il connaît que ça existe ou pas, ou alors il va dire, oh, ça, je m'en fiche, parce qu'il a ça en lui.
En fait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est son ressenti. Il a un gros background derrière lui, il a une grosse connaissance, donc forcément, il ressent tout ça. Et il y a beaucoup de coachs qui viennent me voir sur les formations, sur les conférences, et ils disent, ouais, mais tout ce que tu nous dis, on l'a un petit peu identifié, mais en fait, on n'avait pas mis de mots concrets dessus. Et en fait, je pense que Didier Deschamps, c'est pareil, il dirait « Ouais, je le fais déjà, c'est juste que tu vas clarifier, mettre des mots sur ce que je ressens déjà. » Donc, il y a certains coachs qui tâtonnent, qui essayent des choses différentes, pas tous, mais eux, au début, ils disent « Ouais, maintenant que tu le dis, ça me parle et je le faisais un petit peu à ma manière, mais je ne mettais pas des mots clairs dessus. »
Pour en revenir à ce que tu dis, pour corroborer ce que tu disais, nous, on s'est rencontrés il y a 5-6 ans, avec Nico, et il m'a fait un petit test. Justement, ce que tu as fait un peu en préambule avec lui, d'une vingtaine de minutes, et il a décelé tout ce que moi j'avais mis 15 ans pour déceler, quoi. C'est-à-dire quelle personnalité j'étais, comment je fonctionnais. Et juste après 20 minutes, il me dit, toi, à la mi-temps, t'es comme ça. Toi, t'es comme si, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme si, t'es comme ça. Je me dis, putain, c'est un truc de dingue, parce que là, à la mi-temps, enfin, c'est vraiment le vestiaire, c'est fermé, tu dis, il y a personne qui a pu balancer comment je fonctionne. Et du coup, il te rassure, et c'est un gain de temps de dingue.
Non mais je te rejoins complètement parce que effectivement donc tu as pu me tester juste avant le podcast pour que je sache un petit peu plus de quoi on allait parler et moi ce qui m'a bluffé sur le test c'est ce que tu as dit après effectivement sur mon rapport dans l'équipe et pas nécessairement dans le foot parce que ça serait si j'avais fait une carrière mais c'est surtout je l'ai tout de suite retranscrit par rapport à mon comportement en entreprise avec mon équipe. C'est-à-dire que tu m'as dit par rapport à mes préférences motrices, toi, tu as besoin d'être dans un ensemble harmonieux. Tu as besoin que tout le monde dans l'équipe se sente bien et que si quelqu'un ne se sent pas bien, ça te pose un problème et du coup, ça impacte la manière dont tu réagis. Et effectivement, c'est quelque chose que j'identifie, si tu veux, en prendre un peu de recul par rapport à mon comportement dans le travail complètement.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais bon, on aime bien, moi aussi je suis harmonieux, c'est comme toi, donc c'est pour ça qu'on veut que ça se passe bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Bah, c'est vrai que quand on entend ça, les gens pourraient se dire « Ouais, mais tout le monde a besoin de s'entendre bien. » En fait, il y a un besoin et une motivation. C'est-à-dire que, bah, je vais prendre un cas concret, Edouard, en fait, a la même préférence motrice que Zlatan Ibrahimovic. La même.
Mais t'es trompé de poste.
Mais le levier motivationnel est différent. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, effectivement, ils vont avoir les mêmes schémas moteurs. Ils vont peut-être avoir la même préparation physique, la même manière de frapper dans la balle, les mêmes déplacements. C'est la même chose. C'est un ADN qui est identifié comme ça. Mais il y a la motivation, c'est-à-dire qu'il y a Edouard qui aura besoin d'aller ressouder les liens. Allez, il va parler, lui, justement, de resserrer le jeu, de mieux s'entendre sur les 2-3 joueurs autour de lui, de trouver les intervalles. Il va parler groupe pour être meilleur ensemble.
D'accord.
Zlatan Ibrahimovic, il a un profil un peu ce qu'on appelle compétiteur. En fait, son principe, c'est quoi ? C'est qu'il a besoin de s'identifier avec son adversaire direct, et il va identifier un niveau en disant cet adversaire, je le place à tel niveau et je dois aller au-dessus de cette barre-là. Et donc, il est des fois il peut être virulent parce qu'il se fixe cette limite. En fait, il se compare à son adversaire direct et doit être meilleur que lui, quitte des fois à être un petit peu mauvais, méchant. Et donc ça, c'est quelque chose, dans le vestiaire, on ne peut pas driver Edouard et Zlatan de la même manière. Ce n'est pas le même discours, ce n'est pas possible. Ce sont même limite des discours opposés. Et Zlatan disait dans une interview, justement, il dit « Je critique toujours un peu avant ou pendant le match parce que ça m'oblige à aller au-delà de mes limites pour aller surpasser mon adversaire direct pour dire « Je suis meilleur que lui ». Et donc voilà, ça, c'est un levier motivationnel. Alors on peut dire « C'est de l'ego, c'est de l'arrogance », mais c'est sa motivation. C'est comme ça qu'il va driver pour être meilleur les 45 minutes restantes.
Alternative football.
Je me ramène un peu sur terre, comme je disais, j'ai de la suite dans les idées par rapport à ma question. Ce qui m'a interpellé, donc, c'est que donc, tu m'as fait le test juste avant de commencer l'émission. Ça a duré quoi, Edouard ? 5 minutes ? À peine ?
Avec toi, un peu plus longtemps.
Moi,
non, 5 minutes.
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer.
Non, 5 minutes.
Ça a duré 5 minutes. Et tu m'as dit, OK, t'es ça. Tu m'as ensuite parlé de l'harmonie, de mon approche et de mon rapport aux autres dans une équipe. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décelé le besoin d'harmonie, si tu veux ? Est-ce que tu m'as expliqué sur mon rapport aux autres suite au test que tu m'as fait en 5 minutes ?
Alors, en fait, le testing, il y a... Quand on parle des préférences motrices, il y a plein de personnes. Alors, ça, c'est né un peu aux États-Unis, donc c'est Jonathan Dinnagel, Walter Lowen. Il y a beaucoup en fait de chercheurs et de kinés, de neuroscientifiques qui ont identifié des préférences. Et la particularité, c'est qu'il y a deux personnes en fait, Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz, qui ont réuni l'ensemble de ces préférences en fait, qui ont fait un gros travail de recherche et qui ont créé en fait Action Type en fait cette méthode. Et donc Action Type en fait a réuni l'ensemble des préférences, les a mis dans une grille de 16, en fait, parce qu'il y en avait 16. Et donc, on fait ce testing. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a ces préférences, mais personne aujourd'hui est capable de les trouver, de les identifier. Donc, en fait, on va créer un testing moteur. C'est ce que je t'ai fait, en fait. Et donc, à travers ce testing moteur, c'est simple, c'est que je mets ton corps, en fait, dans deux postures. Alors, je vais rentrer un tout petit peu, c'est pas de la technique, mais tu avais un positionnement à un moment donné qui faisait que tu agissais sur tes chaînes arrière. D'accord ? J'ai mis une contrainte sur ce corps et tu étais assez costaud. Quand j'ai mis à l'inverse sur tes chaînes avant, tu étais moins résistant. Tu as dit, ouais, je me sens moins bien, je tombe. Et bien là, j'ai identifié que tu avais une préférence pour résister sur telle chaîne. Donc, ça me donne une première préférence. Et une fois que j'établis la grille des préférences motrices, j'ai ton profil moteur. Mais ça me donne un lien tout de suite sur ton profil cognitif. En fait, corps et cerveau sont liés. Donc, à partir du moment où ils sont liés, dès que je teste le profil moteur d'une personne, je sais comment, dans sa tête, elle s'organise, elle prend ses décisions, elle prend son information, quels sont ses besoins primaires, en fait. Donc, c'est ça, le double intérêt. Et donc, ça dure 5 minutes. Voilà, c'est ce lien qui est très fort aujourd'hui, qui permet de manière fiable et rapide d'avoir des données très importantes et intéressantes sur le joueur pour le faire progresser. D'accord. À la fois dans le corps et à la fois dans la tête.
Et simplement, pour préciser ce que tu dis, le test, j'étais debout, en fait, Nicolas, et moi, il me demandait d'orienter mon corps ou mes mains ou mes jambes d'une manière particulière, et il appliquait une résistance en fonction de ma posture. Et c'est comme ça donc, que tu as pu déterminer la préférence. Donc,
Ce qui est important, c'est la notion de contrainte. En fait, quand on dit préférence, des fois, les gens se disent, les coachs me disent, ouais, mais il est capable de faire d'autres choses. Oui, je suis gaucher, je suis capable de faire une passe du pied droit. On est capable de tout faire. La préférence, c'est comment je vais être le meilleur, le plus rapide, avec le moins de consommation d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on met une contrainte. Parce que dans le football, quand ça va vite, on est tout le temps sous contrainte. Je dois revoir vite, je dois me déplacer vite, je dois agir vite. Et dès que je suis en contrainte, c'est comme si mon corps agissait avant mon cerveau. Mon corps, des fois, il a un mouvement. Je t'ai même posé une question tout à l'heure et tu m'as dit, oh non, mais là, je pars à gauche.
Ouais. Ouais.
Parce qu'en fait, tu ne réfléchis pas. L'urgence fait que tu pars là.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est, on est capable de tout faire, mais la préférence motrice, c'est un mouvement naturel et inné qu'on l'utilise sous contrainte. Et plus on monte en niveau, et plus on doit utiliser forcément ses préférences, parce qu'on est souvent sous contrainte.
J'ai une question un peu plus large, du coup. Tu as parlé tout à l'heure des gens qui ont un peu initié ces méthodes. La validation scientifique de ça, c'est quoi ? Et c'est quoi l'approche des sports scientists ? Est-ce que c'est porté par des gens qui viennent de la
science ? Est-ce que c'est certifié ?
Si tu veux, on est beaucoup, si tu veux, dans la sport performance, dans la validation scientifique. Est-ce que c'est amené par des gens de la science ? Est-ce que c'est amené par des gens du sport ?
En fait, j'ai envie de dire, c'est amené un peu par les deux, mais c'est une approche empirique aussi. Quand j'ai parlé tout à l'heure de certaines personnes, effectivement, donc il y a des kinés, il y a des ostéos qui identifient des chaînes musculaires, donc ça c'est scientifique.
D'accord.
Quand je te parlais de chaînes avant, chaînes arrière, donc antéromédiane ou postéromédiane, c'est scientifique.
D'accord.
Maintenant, quand ActionType les utilise pour faire un testing et pour ensuite associer un mouvement préférentiel, cette approche elle est empirique, mais en même temps, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Alors moi j'ai rencontré Ralph en 2013, c'est comme quelqu'un qui a été responsable d'un pôle performance à l'INSEP et qui a coaché 8 médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Donc au bout d'un moment, et quand ces gens témoignent que c'est quelque chose de très important qui les a amenés à progresser, oui c'est empirique, donc il y a forcément un médecin. Alors, j'ai fait beaucoup de clubs de foot et tous les coachs sont d'accord, tous les joueurs disent comme Edouard Lepoque, non mais ça me parle. Mmh. Forcément il y a un médecin à un moment donné ou un kiné qui va... demander l'appui scientifique qu'il y a derrière ça. Donc maintenant, oui, il y a une ligne directrice scientifique. Maintenant, l'approche reste empirique, mais elle fonctionne depuis beaucoup d'années.
Mais est-ce qu'on s'en fiche pas ? Parce que tu vois, quand il t'a fait le test, tu t'es pas posé de suite la question à savoir, mais est-ce qu'il y a c'est scientifiquement, à partir du moment où il te fait le test, il te met à nu, là tu dis, ça fonctionne.
Ouais. Alternative football.
Est-ce que tu as entendu parler des tests de personnalité d'une personne qui s'appelle Veronica Kreitmar ? Elle est ancienne handballeuse professionnelle. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans au centre de performance de Red Bull. Et en fait, son job, c'était de décrypter la psychologie des joueurs via 280 questions personnelles au sujet de la capacité d'écoute, la confiance, la psychomotricité, etc. Elle, c'est effectivement un cas particulier, mais du coup, les tests de personnalité, au-delà de celui-là, est-ce que tu penses que c'est un complément à ce que tu fais ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de superflu parce que c'est le joueur qui a la main et qui répond ?
Ça, alors, quand on parlait justement de lien corps-cerveau, donc je parlais d'ActionType, moi je suis également certifié MBTI. C'est l'autre partie de mon métier. Donc je travaille avec des managers en entreprise.
D'accord.
Surtout ce qui va être management, communication, comment driver et optimiser la communication dans les équipes.
Simplement donc, MBTI, si tu peux le dire.
Myers-Briggs Type Indicator. En fait, c'est les travaux de Carl Gustav Jung. Tout simplement, quand j'ai mon profil moteur, ça me donne mon profil MBTI. Donc là, il y a 16 typologies de personnalité.
D'accord.
Donc j'ai 16 profils moteurs qui correspondent aux 16 typologies de personnalité.
D'accord.
Et donc ça, effectivement, ça, c'est mon deuxième métier. Donc je ne peux pas décrire un questionnaire. En fait, les questionnaires sont très bien faits. Tous, je pourrais en citer 10. Ils sont tous très bien faits. Le biais, c'est la personne qui répond. C'est-à-dire que là, j'ai un joueur de football. Je suis en préformation. Il a 17 ans. Comment il va remplir le questionnaire ? C'est-à-dire qu'en fait, la neuroscience a identifié qu'avant 25 ans, mon cortex préfrontal, en fait, n'est pas encore constitué pour avoir un retour d'expérience sur qui je suis et comment je fonctionne. 25 ans.
Ouais,
donc,
vrai.
Si j'ai 16 ou 17 ans, je vais répondre quoi aux questions ? Je ne peux pas. Et 280, ça va me prendre en plus... parce qu'un questionnaire MBTI, c'est 82 questions, ça prend 30 à 40 minutes. 280 questions, est-ce que j'ai le même état de fraîcheur à la 192e qu'à la première ?
Quand tu finis, t'es majeur. Hein.
Non mais ça rejoint et si tu veux l'analyse que Veronica Kreitmar faisait, c'est-à-dire qu'en gros ce qu'elle te dit c'est que les réponses n'indiquent pas l'idée que les athlètes se font d'eux-mêmes, mais c'est la manière dont ils vont être perçus lorsqu'ils livrent leur vision d'eux-mêmes.
Je suis complètement d'accord.
Et ça c'est intéressant. Parce que du coup tu le prends en compte dans l'analyse du joueur et comment toi tu dois l'approcher.
C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce que dit le joueur derrière. Je parlais de Carl Gustav Jung, donc qui est le fondateur du MBTI. En fait, lui, il parlait de la persona. La persona, c'est le masque,
en fait.
C'est qu'est-ce qu'on affiche. Donc, c'est ce que j'ai envie de donner aux autres. Et forcément, si on me pose la question, est-ce que tu es bien organisé dans ton travail ? Je suis en entretien de recrutement, je ne vais pas dire non, je suis un gros bordélique, en fait. Donc, il y a le masque. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de donner aux autres ? Et donc, il y a même des gens que j'ai en entreprise, mais même des fois qui ont 45 ans, qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de... comment je dois être. En plus, il y a tout mon environnement. C'est-à-dire, je suis dans une structure, alors pour revenir sur un club, mais avec sa stratégie, avec sa politique, avec son management, avec une histoire. Ouais. Donc, je dois répondre ça parce que c'est ce que le club aussi doit attendre de moi. Donc, si je réponds à des questions, le questionnaire peut être très bien fait, il n'y a aucun souci. C'est juste que je vais répondre en fonction de plein de choses qui vont peut-être m'éloigner de, non pas qui je suis, mais de mon...
C'est, ah, si. Ouais, si, quand moi, même. Je sais que c'est, tu te mens à toi-même et tu mens à tout le monde. Et, et on en revient aux joueurs de foot. Joueurs de foot, j'ai rencontré des joueurs de foot qui avaient 25, 26 ans et qui passaient à côté de leur carrière. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être des joueurs qu'ils n'étaient pas, tout simplement. Ouais. Et alors que le persona, exactement, le masque. Et que va penser la société, les clubs, les supporters ? On l'a bien vu, ça, à l'époque, tu sais, il y avait des joueurs qui changeaient de club, ils allaient dans les clubs du sud, on va dire, Marseille ou Bastia, les mecs, ils se transformaient parce que, ils commençaient à tacler dans tous les sens, à gueuler.
Ça devenait des gangsters.
Pourquoi, ils devenaient des gangsters. Ouais. Pourquoi tu fais ça? C'est pas ta nature. Tu vois? C'est n'importe quoi.
C'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est ce qui m'a fait changer de métier. C'est-à-dire que j'avais fait ce test, le fameux test MBTI, j'avais un certain profil. Je rencontre Ralph et il me dit, non, t'es pas ce profil. Il y a une lettre qui est pas bonne. Et je lui dis, si, donc dès qu'on est en discussion, j'essaie de défendre un peu qui je pense être. Il fait le test moteur, et là, il me décrit ma manière de jouer au football. Et il me dit, le corps ne ment pas. Et je dis, mais ouais, effectivement, mais il a complètement raison. Et donc, après, c'est aussi le feedback. C'est au bout de 2 mois, 2-3 mois, je lisais et je me dis, mais en fait, il a totalement raison. C'est pas ce que j'ai répondu, c'est mauvais. Je dis, c'était juste mon comportement adaptatif dans un environnement. Mais lui, il a identifié mon besoin primaire, en fait, comme je l'ai fait avec toi tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça, et je dois aller vers ça, en fait. Je dois aller vers ce qui va... Quand on parle de performance, moi, je suis aussi un profil feeling. Et je dois aller vers ce qui me rend heureux aussi. Donc, j'ai besoin de m'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Et forcément, si je m'épanouis, je serai forcément meilleur. Donc, d'ailleurs, c'est ça aussi, l'impact.
D'ailleurs, pour moi, c'est ce qui rend les joueurs uniques. On est tous uniques. Mais tu sais, on va en reparler. Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Zidane, ils sont eux. Ils n'ont jamais voulu imiter quelqu'un. Et il y a eu combien de joueurs qu'on a dit, c'était les futurs Zidane, les futurs Messi, les futurs Pelé, les futurs ceci, cela. Et donc ça les a perdus. Et ces grands joueurs, justement, on ne leur casse pas les bonbons. Ils sont comme ils sont. Tu vois, ils sont comme ils sont. Et si tu fais la même chose avec tous les joueurs, accepter leur comportement et comme ils sont, ou surtout si eux, ils acceptent comme ils sont, je pense que ce serait bénéfique pour eux déjà, pour leur équipe, pour le foot en général.
Ouais, mais on accepte parce qu'ils font gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à Zidane, il faut autrement. C'est-à-dire qu'on accepte parce que, on parlait d'Athènes, Cristiano, Zidane.
Je te coupe, ils ne font pas gagner, ils sont performants. Et comme c'est des attaquants, ils marquent. Il y a un moment donné, quand tu es gardien de but, tu peux être performant, tu ne marques pas, tu arrêtes les buts. Milieu défensif, tu peux récupérer des ballons. Latéral droit, tu peux arriver à faire des efforts, contre-efforts et centrer correctement. C'est la performance, être soi, tu deviens performant. Quand tout le monde est performant, tu as tes 11 joueurs qui sont performants, je pense que tu augmentes tes chances de gagner le match.
En fait, ça me refait penser à une scène, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens qui écoutent, mais Aimé Jacquet en 98 dans le vestiaire, en fait, il a tous les attaquants et il dit en fait, Yuri, c'est pas Zizou. Et ouais, en fait, il compare, il dit tout le monde.
Petit bonhomme.
C'est pas Zizou. Ouais. En fait, il y a du gars, il y a tout le monde. Il dit, vous êtes pas comme tout le monde. Restez dans votre prisme. Et en fait, lui, il disait, je trouve en fait le potentiel, le talent du joueur, et je joue que sur les points forts. Ouais. Mais allez, essayez pas de devenir quelqu'un d'autre ou d'imiter quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour ça. Restez sur votre prisme. Ça veut pas dire qu'on réduit le champ des possibles. Ça veut dire qu'en fait, je veux 100% de chacun. Ouais. Voilà. Point barre. Et donc, c'est un peu comme j'avais fait une étude sur les coups francs. On parlait de Juninho à l'époque. Eh oui, il a un coup franc spécial, mais il est en ouverture de hanche. Ok, c'est une préférence motrice. Sauf qu'il y a des joueurs dont ce n'est pas la préférence qui essayent d'imiter ce mode de fonctionnement. Ça peut marcher. Le seul risque, c'est la blessure. C'est-à-dire que tu peux dire, oui, je vais arriver à faire quelque chose dans ma non-préférence. Je suis droitier, oui, je peux lancer quelque chose de la main gauche.
Tu peux expliquer concrètement, parce que Juninho... Quand tu dis ouverture de hanche, ça veut dire qu'il n'est pas comme Zlatan Ibrahimovic ou quelqu'un d'autre qui, quand il frappe, il enroule son pied de frappe autour de son pied d'appui.
C'est ça. Un exemple qu'on a parlé tout à l'heure, c'est Neymar. En fait, c'est-à-dire que Neymar va avoir ce qu'on appelle une fermeture de hanche. En fait, il ferme le bassin. D'accord ? Et alors qu'en fait, Juninho doit garder ce bassin ouvert. Donc, que tu frappes intérieur du pied, coup de pied, que tu fasses 3 petits pas avant, enfin, Après, il doit, physiologiquement parlant, garder le bassin ouvert pour être dans sa préférence. Neymar est dans une autre préférence. Voilà. J'avais fait une étude, en fait, sur... c'est ce que je fais dans mes conférences entre Neymar et Di Maria. En fait, les deux marquent. Les deux sont très performants sur coup franc, mais ils ont un mode de fonctionnement, une motricité complètement différente. Donc, avec, par exemple, PSG Academy, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait testé des joueurs 13, 14, 15 ans. Et puis, il y avait... c'est bien pour eux, il y avait les Di Maria d'un côté et les Neymar de l'autre. Mais il y en a toujours qui étaient dans le clan Di Maria qui disaient « Ouais, mais moi, je veux être Neymar. » Ouais, tu peux, si tu veux.
Moi aussi, j'aimerais mettre Neymar.
Teins-toi les cheveux, mais en fait, non, mais dans ton schéma, déjà. Si tu veux devenir performant, ta motricité doit être comme ça. Donc, on était avec Mehdi, donc, avec qui je travaille. Il avait le groupe, en fait, des Neymar, j'avais le groupe des Di Maria. Et donc, l'enseignement... L'apprentissage est différent. Mmh. L'objectif, c'est le même, c'est de marquer. Mais dans un schéma moteur qui sera totalement différent entre les deux groupes. Et ça, c'est, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est un apprentissage individuel au service du collectif.
Alternative Football.
Est-ce que dans d'autres sports, au hasard, les sports américains, parce qu'on a parlé d'une tendance qui vient des États-Unis, c'est quelque chose qui est plus utilisé que dans le foot aujourd'hui, qui est déjà démocratisé. Est-ce que tu as des exemples de sports ?
Moi, je regarde beaucoup la NFL. Je ne sais pas si tu parlais de la NFL ou de la NBA. Mais les entraînements n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'ils font des entraînements qui sont beaucoup plus spécifiques au poste. Et ce qui marque aussi beaucoup, c'est l'échauffement. C'est-à-dire qu'ils ont un échauffement qui est complètement adapté au poste, à la fonction du joueur, à la manière dont il va faire, et c'est ciblé là-dessus. Et la dernière chose, c'est qu'aussi, c'est le joueur qui s'échauffe tout seul, en fait. Ouais. Parce que le joueur a connaissance de ce qu'il doit faire par rapport à lui, et donc il va suivre son propre échauffement. Pour moi, c'est la responsabilisation. Ouais. Aujourd'hui, on voit encore en Ligue 1 un entraîneur qui fait quelque chose et derrière, en ligne, on doit imiter ce que fait la personne de devant, qui a un entraînement très global, mais avec des joueurs qui sont tous différents à l'intérieur. Donc oui, le sport US, c'est un temps d'avance. Quand je parlais de Jonathan Nidnagel tout à l'heure, c'est un Américain. Et donc, il a travaillé dans les années 80 avec basket, hockey, baseball et football américain. Et donc, lui, il avait identifié ses schémas moteurs déjà à l'époque, en fait, outre-Atlantique, et il voyait qu'il y avait des motricités différentes, donc des gestuelles différentes, donc des préparations physiques différentes.
Des formations professionnelles, je vais encore faire une analogie avec la data. Je pense qu'ils ont, comme dans la data, ils ont des sports qui sont organisés en phase, donc qui sont plus propices à utiliser ce genre de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon pour nos sports à nous. Et notamment, dans l'approche de la spécificité du poste, tu parles de la NFL, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que typiquement, dans le recrutement dont on en parlait tout à l'heure, ils ont un système qui est très particulier, très américain, c'est la draft. Mais avant la draft, tu as le combine. Et le combine, c'est quoi ? C'est le joueur est évalué sur les spécificités de son poste. Et il est comparé aux autres joueurs du même poste qui prétendent à entrer dans la NFL. Donc, cette individualisation de la performance dans le recrutement, elle est effectivement déjà là. Et pour poursuivre ma pensée et mon analogie, encore une fois, par rapport à la data, aujourd'hui, dans la data, on est arrivé à un consensus dans les sports moins data, où c'est standard, c'est appliqué de manière différente, mais en tout cas, ça fait partie des outils. Et donc, on peut imaginer que pour la partie préférence motrice, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'il y a cette transition vers des sports où peut-être elle est moins propice parce que l'individualisation est moins présente dans le sport, mais qu'elle a quand même un intérêt important.
Bah, elle a un intérêt très important. Elle est beaucoup utilisée dans le sport US. Enfin, je parle de football américain parce que c'est ce que je regarde le plus. Et c'est impressionnant parce que le football US, en fait, c'est des séquences courtes, ultra rapides. Donc, en fait, quand on parlait de contraintes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont des fractions de secondes pour effectuer un mouvement ou pour se déplacer, c'est même au-dessus du football aujourd'hui, parce qu'il y a un impact derrière. C'est-à-dire que si je ne fais pas bien, je peux me faire trancher. Donc, on voit un quarterback, je pense à Tom Brady, il a un schéma moteur, il se connaît parfaitement. C'est-à-dire qu'il va agir complètement sur ses forces tout le temps. On parlait tout à l'heure de la data, pour moi, elle est complémentaire. C'est-à-dire que la data va expliquer, va donner en fait une donnée sur un mouvement qu'on voit. Exemple, Kylian Mbappé va peut-être mettre moins de temps quand il va vers sa gauche que quand il va vers sa droite alors qu'il est droitier. Ok, la data me dit, il y a, je dis n'importe quoi, 2/10 de moins. Mmh. Moi, je vais expliquer pourquoi, en fait. C'est que je vais compléter la data en expliquant pourquoi et surtout comment optimiser ce schéma dans le jeu. La data va donner en fait quelque chose, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de la data ? Non, un point important, en fait, c'est, j'avais noté, c'est la notion de poste. C'est-à-dire que des fois, l'entraîneur peut mettre une personne à un poste qui peut en fait la freiner ou faire que ça ne va pas être dans de bonnes dispositions. Mmh. J'avais un exemple très concret, donc c'est Sabrina Delannoy, et qui était au pôle de latéral droit, qui n'était pas son poste privilégié. Et en fait, elle a, en testant ses préférences motrices, donc je suis allé en fait à Bougival, je teste, j'ai le profil, mmh. et là, je vois son positionnement sur le terrain. Et je me dis, waouh, en fait, elle est dans un poste en fait, qui l'amène à ce qu'on appelle le dark side, hein, à l'opposé de ce qu'elle devrait faire. C'est que tout son placement, tout est fait pour l'empêcher
qu'elle sombre,
d'évoluer.
Pour qu'elle sombre.
Pour qu'elle sombre, voilà. Et donc, c'était Farid Benstiti à l'époque, le coach, et je lui montre ça. Et il me dit, mais comment t'as réussi en fait en 20 minutes à avoir tout ça ? Je lui dis, bah voilà, on a fait le testing comme tout à l'heure, et là, elle a... Donc, il y a plein de préférences. Il y a la vision périphérique, il y a la vitesse de déplacement, l'œil moteur, enfin, l'épaule d'énergie, plein de choses. Et aujourd'hui, dans ce positionnement, elle est bridée. Elle pourrait faire différemment, mais ça nécessite un déplacement, une prise d'information qui peut être un peu contraignante pour elle. Et en discutant avec la joueuse, elle a dit, ouais, j'ai du mal à faire ce que j'ai envie de faire. Et là, on a eu la data. C'est-à-dire qu'il y a eu la vidéo et on a dit combien de fois tu as fait ça dans le match. Donc, la data a dit, effectivement, elle fait moins de choses à ce poste-là qu'à un autre poste. Moi, j'ai expliqué le pourquoi du comment avec ses préférences intrinsèques. Et donc, je lui ai dit, ton positionnement ici, c'est pas que tu peux pas jouer là, c'est juste que tu vas peut-être jouer à 60% de tes capacités. Ouais. Et là, Farid me dit, ouais, mais à quel poste elle serait mieux ? Donc, je lui ai donné un autre poste, en fait, en disant milieu défensif plus axé gauche, elle pourrait exploiter 100% de ses capacités. Ça restera la même joueuse, mais elle sera plus utile dans la collectif. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, elle a été recentrée à ce poste-là parce que, un, elle se sentait mieux, et deux, effectivement, par rapport à ce que lui recherchait, elle était beaucoup plus à disposition du collectif dans ce positionnement qu'au poste de latéral droit. Et effectivement, après avoir beaucoup échangé avec elle, elle m'a dit « Oui, je me sens plus libre, plus épanoui, je vois mieux, je vois plus vite, et ouais, je peux faire beaucoup plus de choses à ce poste-là qu'au poste de latéral droit. »
Du coup, ça arrive souvent que tu travailles en isolation avec des joueurs qui viennent te voir, qui se connaissent et qui disent « Écoute, j'aimerais travailler avec toi indépendamment de ce que fait mon club pour être meilleur. »
Bah, malheureusement, j'ai dit malheureusement, je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille qu'avec le joueur individuellement. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce qu'on parlait de performance individuelle pour le bien du collectif, mais j'ai qu'un joueur sur les 11. Ouais. Donc, je fais un travail pour lui. Donc, lui, il va peut-être mieux prendre l'information, mieux se déplacer, gagner du temps. Parce que le football, c'est vitesse, espace-temps. Donc, il va gagner sur ces trois notions-là. Mais si les 10 autres autour ne savent pas, il est un peu isolé. Donc, bien sûr que je l'amène à être meilleur, mais j'ai cette frustration de me dire, si j'avais les 11, ça ne serait pas pareil. Ouais. Je fais un exponentiel 1 ou un exponentiel 11. C'est la même manière.
Oui, les peines, bien sûr.
C'est pas le même. Donc, effectivement, lui, le joueur, il se sent mieux, il prend confiance. On n'a pas parlé de la confiance en soi, mais le fait d'identifier, de caractériser ça, je prends confiance parce que je sais quoi faire et comment. Et il m'a dit une chose intéressante, ce joueur, Damien, il me disait, en fait, je sais pourquoi j'échoue. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire que savoir pourquoi j'échoue et savoir quoi faire pour remédier à ça.
Ah ben ça, c'est.
C'est-à-dire qu'après, je ne dis pas qu'il n'a plus besoin de moi, mais presque. C'est-à-dire que on a travaillé pendant 2 ans ensemble. Aujourd'hui, il se connaît parfaitement.
Ah ouais, mais ça, c'est. Quelque part, ça a été ma force. C'est-à-dire que je connaissais mes qualités. Je m'appuie à fond sur elles. Et c'est pour ça que ça m'a permis de temps en temps d'aller. J'ai évolué dans plusieurs postes. Par contre, quand j'ai joué parfois milieu offensif gauche, milieu offensif droit, latéral droit. Je savais pertinemment que j'allais pas faire ce que le titulaire faisait. Et je restais sur ça.
Latéral droit, c'était pas compliqué. C'était le plus compliqué des trois, non ?
Ouais, c'était dur. J'ai joué 8 matchs. Hein. Je raconte l'anecdote aussi. Guy Lacour me met latéral droit parce que Bernard Mendy a eu un problème familial et il me dit « Écoute, tu vas jouer à droite. » Bon, je fais 8 matchs. 8 matchs. Hein. Je dis « Pour rendre service à l'équipe, pourquoi pas ?» Bref. Et c'est une période très difficile pour moi.
2006.
C'est en 2006 ? Ouais. 2006. Personne difficile, parce que je veux rendre service à l'équipe, je le fais, d'accord ? Et je suis vraiment pas bien, un petit dans le trou, tu vois, c'est vraiment dark side, vraiment pas bien, mais bon, je le fais. Et là, je suis tellement pas bien que j'appelle quelqu'un, mon mentor Didier, qui est à la Juve. Et je lui dis, franchement, je suis à la ramasse et tout. Non, d'abord, Il m'appelle, il me dit comment ça va? Je dis ouais ça va. Il me dit déjà tu me mens parce qu'il avait vu mes matchs. Et, et je lui dis bah ouais voilà je lui explique le truc. Il dit j'ai écoute voilà il manque un joueur à droite. J'ai voulu rendre service. Je me suis mis. Il me dit ouais mais ça fait combien de temps que tu joues? Bah ça fait 8 matchs. Ah ben ça fait 7 matchs de trop déjà. Il m'a dit 7 matchs de trop. Il me dit tu peux pas, c'est pas possible. Et en fin de compte, après cette discussion, j'étais voir le coach Guy Lacombe et je lui dis coach, c'est je sers pas l'équipe, je me sers pas parce que je suis en train de me perdre. Donc il faut soit je suis sur le banc, soit vous trouvez une solution à droite, mais je peux pas. Enfin c'est pas utile. Et ça c'était, je me rappelle plus le truc, mais c'était flippant quoi.
Résultat, il te remet au milieu. Finale de Coupe de France, récupération des pieds de Taïwo, bonne aventure Kalou.
Non mais après merci, au revoir. Oui bien sûr, on peut raconter l'histoire, mais tu vois, tu passes par ça, tu veux rendre service à l'équipe. Parfois, ce que j'ai envie de dire, le meilleur service que tu peux rendre à l'équipe, c'est pas jouer. Non mais tu sais quoi, il y avait des, franchement, mais c'est vrai, hein, c'est con, mais ouais je peux jouer. Ouais tu peux jouer, bien sûr tu peux jouer, mais quand même t'es pas au top quoi. Ouais. Tu peux jouer avec le cœur et au niveau c'est ça. Hein. Très souvent, le haut niveau, j'étais un peu dur avec certains. Les mecs, ils me disent, putain, il se bat, quoi. Ouais. Il se bat. Ouais, mais on ne veut pas qu'il se batte.
Ouais, il ne se bat pas.
Non, ouais, je ne veux pas qu'il se batte, je veux qu'il marque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non, mais bien sûr.
Et le haut niveau, c'est ça. Donc, pouvoir tout jouer, ouais. Mais en fonction du niveau, si tu es en L1, il faut que tu sois performant.
C'est ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est quand même sur quelque chose de décisions importantes qui sont beaucoup drivées par le ressenti encore. Mmh. Et l'idée de regarder l'individualisation et travailler les préférences motrices, cognitives et motivations personnelles, c'est d'amener du rationnel dans la prise de décision. Et si tu amènes du rationnel, tu limites le risque. Ouais. Tu limites le risque pour le joueur et tu limites le risque pour l'équipe. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui est saine. Et c'est justement avoir la capacité de dépasser la notion de ressenti qui peut aussi te faire gagner des matchs. Je suis pas en train du tout, je suis pas en train de dire qu'il faut pas amener l'émotion et pas amener le ressenti parce que c'est en général le ressenti qui te fait basculer une rencontre sur un mec qui décide de frapper alors qu'il devrait pas. Ouais. Je prends le même match, je faisais référence à la finale de Coupe de France 2006, Vikash Dwarasu qui frappe jamais au but, là ouais, il déboule ouais. plein axe, ouais. il frappe but. Ouais, but. L'élément de ressenti est intéressant, mais il ne doit pas avoir de valeur absolue, c'est-à-dire que plus on amène de rationalité dans les décisions qu'on va prendre, plus on réduit le risque.
Alternative football.
Du coup, à quel point il faut individualiser les entraînements? Est-ce qu'il faut juste des entraînements latéraux et un coach dédié aux latéraux? Je fais l'analogie avec les sports américains où tu as des coachs par poste. Quelle est la limite, sinon, de ces entraînements très individualisés que tu pourrais faire en prenant en compte les préférences motrices?
En fait, ce n'est pas qu'il y a de la limite. C'est-à-dire qu'on parlait des footballs US. Je suis au 30 yards, il me reste pas beaucoup de tentatives. Effectivement, je sais que je vais finir par un punt. Bah en fait, on voit le punter qui est sur le côté et qui enchaîne des frappes. Donc, il sait qu'il va faire ça. Donc, il s'échauffe en fonction de... Donc, ça, c'est une logique du jeu, en fait. Un joueur, la dernière fois, il y a une stat qui est tombée sur Kylian Mbappé. Et en fait, il montrait le nombre de courses et sa moyenne de vitesse. Et ben, il peut y avoir un échauffement musculaire au début qui est général à tout le monde. OK, je mets le muscle en fait en route, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir un échauffement vitesse pour lui parce que... Peut-être 80% de ses courses, je sais pas, n'importe quoi, font 15 mètres et ils courent à 30 km/h. Donc je peux même utiliser la data en me disant, je vois ça, bah je vais logiquement individualiser l'échauffement pour que ce qu'il fait à l'échauffement, le but c'est qu'il le reproduise en match.
Donc ça, tu peux être complémentaire du préparateur physique. C'est-à-dire que tu peux expliquer au préparateur athlétique, au physique, voilà, ça va se passer comme ça. Parce que ça, c'est le domaine du prépa.
C'est ça. Je vais même aller plus loin. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture ou fermeture de hanche. C'est deux profils différents. Et je ne vais pas faire à l'entraînement, à l'échauffement, des fermetures de bassin à un joueur qui va utiliser des chaînes musculaires opposées en fait, pendant le match. En fait, c'est savoir comment il fonctionne. Et donc, oui, je vais utiliser l'échauffement en fonction de, un, qui il est et comment son corps fonctionne, et deux, qu'est-ce qu'il doit reproduire sur le terrain. Quand on fait rentrer un joueur à la 80e et que c'est un peu dense et que c'est un peu serré, faut qu'il soit prêt à faire des courses très rapides, à être au contact. Enfin, il va pas juste faire des allers-retours à 7 km/h sur le bord du terrain. On le met pas en disposition de bien intégrer.
Non, ça c'est du côté athlétique. Mais maintenant, comment tu pourrais individualiser une séance tactique, séance tout simplement d'entraînement? Parce que c'est très difficile d'isoler les latéraux, des milieux, c'est pas du football américain, tu vois, il y a... Est-ce que c'est possible?
Oui, sur des schémas préférentiels.
Ouais, schéma préférentiel.
C'est-à-dire que souvent, même quand j'étais joueur, on travaillait sur des répétitions de schémas tactiques. Ouais. Ok, ils sont peut-être bons, il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que sur les 4 ou 5 joueurs qui sont utilisés pour ton schéma tactique, est-ce qu'ils sont dans leur préférence?
Voilà.
Donc, si tu rajoutes cette notion de, en plus, je vais garder cet exercice parce que je l'aime bien, c'est tactiquement ce que je veux travailler. Moi, je dis au coach, ouais, de toute façon, moi, j'ai pas à m'immiscer là-dedans. Mais si tu veux en plus avoir une optimisation de ça dans le process, connais les préférences individuelles de chaque joueur et tu verras que ta consigne sera des fois différente.
Bon, pour schématiser, le coach, il met sur feuille un exercice, il met 5 noms. Et toi, tu peux dire, ouais, super. Alors, les 5 noms, je les garde. Par contre, disposés différemment. On schématise.
Tu peux répondre, oui. Pas tout le temps. Tu peux dire, non, mais s'il a des contraintes, je sais pas, de gestion de joueurs et qu'il n'a pas le choix de dire, si lui, tu veux lui demander de déborder, mets-le dans ces dispositions-là et donne-lui telle et telle consigne.
Ouais.
Et là, il le fera mieux que si tu le mets dans ton schéma habituel.
Ouais, donc c'est poussé, hein. C'est poussé en fin de compte, hein, tu vois. C'est-à-dire, tu peux à la fois sur le côté athlétique, physique, ok, et à la fois sur le côté technique, tactique. Tu optimises carrément vraiment la performance.
C'est comme sur un corner. Collectif. Sur un corner, il y a des joueurs qui démarrent leur course avant la frappe de balle,
et d'autres
qui démarrent après la frappe de balle.
Donc la disposition. Donc du coup, tu disposes. Ouais, ce serait dans la disposition des joueurs sur
c'est
le coup
ça.
De priorité.
D'accord, lui, okay. Il va être mieux en partant gauche-droite, lui va être mieux en partant droite-gauche, lui va être mieux en partant un peu plus loin, lui va partir tout de suite premier poteau. Bah, donc, j'ai ses connaissances individuelles. Bah, là, le coach ne me pose même plus la question. C'est devenu logique de disposer de telle et telle manière. Et je peux tourner autour de 3 ou 4 stratégies collectives sur des coups de pied arrêtés, ouais. Très clairement.
Pourquoi, historiquement et philosophiquement, on n'a pas depuis le début pris en compte l'individu dans le foot?
Alors, cette approche est née, en fait, dans les sports individuels, à la base. C'est-à-dire que c'était beaucoup développé dans les sports individuels parce que l'impact, il est immédiat. Dans un sport collectif, c'est un peu plus dilué, comme je disais tout à l'heure. Alors, il y a deux réponses, il y a deux axes. Le premier, c'est que le football reste quand même un milieu fermé. On met quand même du temps à développer les choses. Et comme on parlait de sport individuel, bah, aujourd'hui, le seul poste qui est mais vraiment un petit peu... travailler différemment, c'est le poste de gardien de but. Et le poste de gardien de but, en fait, comme c'est un joueur, entre guillemets, individuel, bah, là, on va beaucoup plus sur cet axe de travail. Il y a une personne qui utilise, en fait, ses connaissances avec les gardiens.
Effectivement, il y a le poste de gardien de but. C'est assez drôle, c'est-à-dire qu'il est dans le vestiaire, mais il ne s'entraîne pas avec nous. C'est assez drôle, où il arrive que pendant les jeux. Mais pourquoi on n'a jamais pensé à l'individu? C'est parce que très souvent, dans le foot, on parle de nous, N-O-U-S. Et moi, quand j'entraînais les jeunes du Paris Saint-Germain, quand je posais la question « Comment tu t'es senti un joueur ?», le mec me dit
« On était bien. »
« Ouais, on a été pas mal, on était ceci, on était cela. » Et donc, il a été conditionné pour que le jeu se barre, soit mis de côté, au profit du « nous ». Mais en fin de compte, depuis plus jeune âge, il faut qu'il pense en termes de jeu. Parce que sinon, le jeu, c'est péjoratif, c'est narcissique, c'est personnel, c'est égoïste. Tout est négatif. Et il faut arriver à dire que le jeu, c'est positif. Parce que si le jeu, il est performant, tu vois, si je me concentre sur moi en étant bon, je vais servir, je peux servir, je peux mieux servir le collectif. C'est aussi simple que ça.
C'est une croyance qui est très présente dans le sport collectif. Ah, t'as une phrase très célèbre en anglais, c'est « There is no I in team ». Mm. Et effectivement, récemment, il y a une réponse de Kobe Bryant à cette phrase-là qui disait « Yes, but there is a M-E, me, oui. in that motherfucker
oui, ».
C'est-à-dire
oui,
qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de « i », mais il y a un « moi ».
Ouais.
Mais je trouve que c'est super important. Parce qu'après, dans le haut niveau, il y a c'est Didier aussi qui nous a expliqué une autre anecdote qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'on est à Monaco, on traverse une période un peu compliquée. Ça fait 2 matchs qu'on n'est pas super, super bon. Et puis, à un moment donné, il vient nous voir après le décrassage. Et je le vois, tu vois, tu t'étires, mais tu le vois, il parle à tous les joueurs, tu vois, il pose 2-3 questions, il vient me voir, il me dit alors comment ça va? Je dis ouais, putain, franchement, ça va pas trop et tout. Et je commence à dire ouais, mais on manque ceci, on manque cela, on manque de ceci, on manque de cela. Tu sais, il me dit arrête de parler des autres. Tu sais que lui, il m'a dit la même chose. Vous manquez. Toi, t'as pas été bon. Sois bon toi, pense à toi d'abord, puis après ce sera. Après ce sera facile, tu verras. Si toi t'es performant, ce sera bon. Effectivement, sur ce match, j'avais pas été bon. Effectivement, Ludo n'avait pas été bon. Un tel n'avait pas été bon. Individuellement, on n'avait pas été bon. Donc collectivement, t'es pas bon. Mmh. Et à partir du moment où on a intégré que si je suis bon, quand je dis bon, c'est pas grailler tous les ballons. Hein. C'est performant, combatif, gagner tes duels, voilà. C'est fluide. Ça veut pas dire que tu vas gagner le match. Mmh. Et tu augmentes tes chances. Tu augmentes tes chances de gagner le match.
Mais je rebondis sur ce que tu disais. De temps en temps, on peut penser que de parler de soi, c'est trop... Orienté sur soi, ça fait un petit peu condescendant, mais pour moi, le joueur de référence, c'est Cristiano Ronaldo. Mmh. En termes de connaissance de sa personne, c'est quelqu'un qui travaille vraiment en fonction de lui, de son potentiel, de son physique, de sa récupération, de tout. Il optimise tout son schéma de travail et son schéma de récupération. Et ça fait un complément avec l'autre question sur Zidane, c'est que avant Zidane, en fait, effectivement, il prend de la place, Cristiano Ronaldo, on a l'impression qu'il est assez nonchalant et condescendant, mais il a su aussi conserver le jeu, le moi de Cristiano Ronaldo. Mmh. Il a respecté ça, mais il l'a juste orienté de manière individuelle, il l'a managé pour que ce moi devienne une importance capitale et serve le collectif.
Exact.
Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le résumé. C'est le joueur se connaît parfaitement, et je ne vais pas aller le brider, je vais laisser vraiment exploiter un maximum de son potentiel, mais je vais un peu le driver pour l'amener au service du collectif. Et là, on avait, ça, moi je pense qu'on avait deux Ronaldo entre l'avant Zidane et l'après Zidane.
Du coup, ça m'amène tout ça à vous reposer la question de départ. Le football est-il toujours un sport collectif ?
Écoute, il a été perçu et il est perçu encore comme un sport collectif, mais il doit être appréhendé de manière individuelle. Et dans cet épisode, on voit qu'il est tout à son intérêt de le voir. Individuellement pour l'améliorer.
Ouais, donc comme disait Edouard, en fait c'est en fait une association d'un travail individuel au service du collectif.
Et ça, c'est une belle conclusion.
Je pense que de temps en temps, quand c'est bref comme ça, c'est bon.
Merci beaucoup, messieurs. On a appris beaucoup de choses et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Alternative Football.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alternative Football. Alternative.